Paul à Timothée au chapitre 3, à partir du verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. La dernière fois, on avait parlé du début du chapitre avec les évêques, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Et nous regardons cette épître avec un angle particulier, c'est que Dieu veut nous montrer les choses excellentes, les meilleures choses. Désirer la charge d'évêque, la responsabilité de berger dans une église, c'est une chose excellente. Être diacre également. Et là, aujourd'hui, nous parlons des diacres. Alors, le mot diacre est un mot tout simple en grec qui veut dire serviteur. Il y a deux mots pour désigner un serviteur, le mot diacre et le mot esclave. Quand vous voyez souvent l'idée de servir ou d'être un serviteur, en fait, derrière, il y a un mot qui veut dire service ou en donnant sa vie, c'est-à-dire vraiment l'idée d'être esclave de Dieu. Pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire être maltraité par Dieu, mais esclave dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on donne sa vie et Dieu est notre maître et on lui obéit. On ne cherche plus son propre intérêt, on ne cherche plus sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. Mais là, c'est le mot serviteur tout simple. Alors, pourquoi on a mis diacre et pas serviteur? Parce qu'il semble ici que ça désigne quand même un titre. Il a commencé avec les évêques. Il faut que l'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ensuite, les diacres aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans le Nouveau Testament, les apôtres, par exemple, s'appellent serviteurs aussi. Paul écrit à un moment, nous sommes serviteurs de Dieu. Et c'est le mot diacre. Nous sommes diacres de Dieu. Tandis que là, on voit bien que c'est autre chose. Ce n'est pas un simple serviteur qui sert. C'est l'idée de quelqu'un qui sert à quelque chose de particulier dans l'Église. Alors, que faisaient les diacres dans l'Église? On voit notamment qu'il y a une différence entre un simple serviteur, le mot employé comme serviteur, et le mot tel qu'il est employé, par exemple, dans Philippiens. Si vous regardez avec moi Philippiens, chapitre 1, c'est un petit peu avant. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, c'est le verset 1, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc on voit que l'église du Nouveau Testament était organisée en évêques, diacres et les autres. C'est pour ça qu'on pense qu'ici, dans 1 Timothée 3, quand il dit les diacres, il veut dire ces personnes-là qui servent d'une façon particulière dans l'église. Alors, que faisaient les diacres et les diaconesses? Parce qu'il y avait des diaconesses également. Dans le livre des Actes, au chapitre 6, on découvre qu'il y avait un problème dans l'église de Jérusalem, un problème de distribution de nourriture. Il y avait beaucoup de monde, là, dans cette église de Jérusalem, puisqu'il y a eu plusieurs milliers qui se sont convertis en même temps, et encore plusieurs milliers après. Et dans ces plusieurs milliers, il y avait des gens très pauvres. Et L'Église a décidé de pourvoir aux besoins des plus pauvres et de distribuer de la nourriture, notamment aux veuves. C'était quelque chose de très important en Israël, de prendre soin des veuves et des orphelins. Hein, la veuve et l'orphelin, ça fait partie de la loi, ça fait partie du plan de Dieu de veiller sur les veuves et les orphelins. Rappelez-vous ce que dit Jacques, hein, la religion pure hein, et sans tache, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Pourquoi les veuves et les orphelins? Ben parce qu'ils n'avaient aucun moyen de subsistance, particulièrement les veuves. Il n'y avait pas de pension de réversion, elles ne touchaient pas une partie du salaire de leur mari, n'est-ce pas? Et souvent, après avoir élevé 7 ou 8 enfants, elles étaient très fatiguées, en difficulté. Elles ne pouvaient pas facilement travailler parce qu'en Israël, les femmes n'étaient pas très bien reconnues, donc elles n'avaient pas un emploi salarié. Hein. Elles travaillaient beaucoup pour la maison, mais ce n'était pas salarié. Et donc l'Église a dit, il faut subvenir aux besoins. Et ça, ça fait partie de l'amour de Dieu dans le cœur des chrétiens. Et il a fallu donc organiser cette distribution de nourriture. Et les apôtres se sont trouvés là-dedans et ils se sont trouvés complètement débordés par la situation. Les gens se plaignaient, mais nous, les juifs d'origine grecque, on n'est pas aussi bien servis que les juifs de Jérusalem. Et il y avait des plaintes et les apôtres ont dit, ça suffit. Nous, il faut qu'on s'occupe des choses prioritaires pour nous, et il faut nommer des personnes qui vont s'occuper de la distribution. Alors si on regarde ensemble Acte 6, versets 2 à 4, les douze apôtres, hein, il y avait le remplaçant de Judas, là, convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables, hein, c'est-à-dire pour distribuer la nourriture aux gens qui venaient à l'église, qui manquaient de nourriture, aux chrétiens. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, quelles étaient les priorités des apôtres? La prière et la parole. C'est intéressant qu'ils mettent la prière en premier, parce qu'avant de donner la parole, il faut d'abord avoir prié. La parole, c'était l'enseignement de l'Église et l'évangélisation du pays. Donc, on peut transférer ça des apôtres aux évêques. Les évêques ont pour première responsabilité, la prière et la prédication, l'enseignement, la propagation de l'évangile. Mais il faut de l'aide. Dans une église, il y a plein de choses matérielles à faire. Il y a des chrétiens en difficulté qu'il faut aider. Et il y a des choses à réparer, il y a des choses à servir, il y a des choses à faire. Et les pasteurs hein, ne peuvent pas, en plus de tout ce qu'ils font, faire ça. Ça va les détourner, ça va les déconcentrer. Ça ne veut pas dire qu'un pasteur ne va jamais lever le petit doigt en disant « Moi, je suis pasteur, je vous laisse faire la vaisselle, je ne suis pas appelé à faire la vaisselle, je vous laisse mettre la table, je ne suis pas appelé à mettre la table. » Je ne pense pas que ce soit une attitude très chrétienne de croire que parce qu'on est pasteur, on est déchargé de ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en tant que pasteur, il faut avoir la sagesse de se concentrer d'abord et de mettre en premier ce qui doit être en premier, prier, et étudier la parole de Dieu pour la donner aux autres. Alors, il fallait des diacres. Ils ont choisi 7 hommes pleins du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas n'importe qui qu'ils ont choisi. Hein. Des personnes remplies. Ils n'ont pas juste dit, bon, il y a des volontaires là. Toi, d'accord. Non. Ils ont dit, choisissez 7 Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce n'était pas simplement une entreprise qu'ils allaient faire là. C'était l'amour de Dieu en action. C'était dans l'Église. Tout ce qu'on fait dans l'Église, on doit le faire par le Saint-Esprit. Prier, c'est par le Saint-Esprit. Le repas fraternel, par le Saint-Esprit. Le ménage, par le Saint-Esprit. On doit tout faire dans l'Église, par le Saint-Esprit. Parce que c'est la maison de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit habite aussi. Les évêques avaient donc ce rôle de prêcher et prier. Les diacres s'occupaient des besoins matériels. après l'église de Jérusalem, apparemment, ça a continué et on leur a donné un nom à ces personnes, parce que dans le livre des Actes, ce n'est pas dit que c'était des diacres. Hein. Mais on leur a donné un nom, on voit dans Philippiens, donc, aux évêques et aux diacres. On voit dans le livre des Actes que des femmes ont commencé à participer, comme Dorcas ou d'autres, en aidant avec les vêtements ou avec la nourriture aussi, en s'occupant des veuves. Hein, c'était mieux que ce soit une femme qui s'occupe des veuves plutôt qu'un homme. Et ces personnes-là étaient en fait les diacres de l'Église et les diaconesses de l'Église. Diacre n'est pas un titre d'autorité. Il n'y a pas une sorte de hiérarchie dans l'Église. Il y a le chrétien de base, le diacre et l'évêque ou le pasteur. Donc ce n'est pas ça que nous dit le Nouveau Testament. Bien que les pasteurs sont appelés à diriger et ont droit à un respect, tout chrétien a droit au respect, tout frère ou sœur a droit au respect. Et la Bible dit « soumettez-vous les uns aux autres ». Donc, il ne dit pas « soumettez-vous aux pasteurs » et non, c'est « soumettez-vous les uns aux autres ». Donc, tous ensemble, on doit avoir ce respect. Mais diacre, au contraire, c'est quelqu'un qui est serviteur. Donc, c'est quelqu'un qui s'abaisse quelque part pour servir les autres. Comme Jésus a lavé les pieds des disciples, hein. C'est dans ce même esprit qu'un diacre doit fonctionner. Je suis au service de mes frères et sœurs. Si le diacre commence à dire, attention, moi je suis diacre, alors maintenant il va falloir faire ce que je dis. Hein. Alors on va faire comme si, vous allez faire comme ça. Comment tu n'obéis pas à ce que j'ai dit? Mais attention, moi je suis diacre. Hein. Alors là, il faut arrêter tout de suite. Diacre égale serviteur. Pas chef, serviteur. Combien d'églises ont été abîmées, divisées par les diacres? Le diacre zélé, parce que c'est toujours en général une personne zélée, qui outrepasse quelque part son rôle ou qui pense que diacre, ça veut dire je suis quelqu'un d'important dans l'Église, alors que le diacre, c'est quelqu'un qui doit être au service des frères et sœurs, qui doit les aider. Et on voit dans le Nouveau Testament particulièrement les personnes en difficulté. Ici, il nous est donné un peu les qualifications du diacre, comme on a eu les qualifications de l'évêque. Ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Donc on voit que ça a beaucoup de rapport avec quoi ? L'argent. Beaucoup de rapport avec l'argent, pourquoi ? Parce que les diacres, dans l'église de cette époque, géraient beaucoup d'argent. Tout l'argent qui était donné par les chrétiens pour le compte de l'église était distribué en partie aux veuves, aux orphelins, aux pauvres, aux handicapés. Hein, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques. Et l'Église distribuait de l'argent pour aider ses frères et sœurs. Si vous lisez dans le livre des Actes, hein, vous avez vu que les chrétiens avaient vendu même des champs ou des maisons pour donner l'argent à l'Église et que cet argent soit distribué aux plus pauvres. Ça, c'est rare hein, aujourd'hui, carrément de dire « je vais vendre quelque chose pour donner aux plus pauvres dans mon église hein. ». On voit à quel point l'amour de Dieu était fort dans leur cœur. Et il fallait que les diacres soient particulièrement intègres, honnêtes. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent qui circule, hein, vous êtes tenté. Surtout qu'il n'y avait pas de chèque ni de carte bleue, donc tout était en pièces sonnante et trébuchante, et quand ils avaient un tas de pièces sous les yeux, ils devaient se dire « s'il en manque une dizaine, personne ne s'en rendra compte ». Et c'est là qu'il faut une honnêteté absolue. Éloigné de la duplicité, c'est-à-dire que ça devait être quelqu'un d'entier, quelqu'un qui avait une seule parole, quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer, compter, et ça c'est quelqu'un, tu peux lui faire confiance. Éloigner des excès du vin, vous allez me dire quel rapport avec l'argent. Ben, quand vous êtes ivre ou alcoolique, vous êtes beaucoup moins efficace, votre jugement est altéré et vous êtes capable de toutes sortes de désordres. Hein. L'alcool entraîne beaucoup d'autres péchés. Et donc il fallait que ce soit des gens particulièrement sobres et intègres dans ce domaine-là afin d'être toujours maîtres d'eux-mêmes. Et surtout qu'ils avaient une grande responsabilité, cet argent ou ces biens matériels de l'Église qu'ils devaient distribuer hein, et partager. Ensuite, il faut qu'ils reçoivent, pardon, non. Qu'on les éprouve, dit le verset 10, d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Pour être diacre, il fallait d'abord être pris à l'essai, comme on fait aujourd'hui dans les entreprises, hein. Vous avez un temps d'essai pendant 3 mois et on va voir ce que ça donne. Et bien, c'était pareil. Il fallait que la personne, on voit si elle était un bon comptable, s'il était vraiment honnête. Et on disait, bon, on va t'essayer, on va voir ce que tu vaux dans ce poste de diacre. Et on ne laissait pas tout l'argent comme ça à quelqu'un du jour au lendemain. Il fallait vraiment qu'on éprouve la personne. C'est un peu pareil avec aussi le pasteur, hein. Il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, disait le verset 6. C'est pareil, il y a des responsabilités dans l'Église, il ne faut pas les confier à quelqu'un de novice ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Quelqu'un de nouveau qui arrive, on ne lui confie pas des responsabilités importantes. Parce qu'il faut d'abord connaître la personne, notamment au niveau de son honnêteté, de sa parole, de sa fidélité et de sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, il y a encore des diacres dans les églises, normalement. Et pour nous, la qualification d'un diacre, il faut que la personne soit née de nouveau, soit chrétienne, convertie à Jésus-Christ, qu'elle ait un témoignage de conversion. Il faut qu'elle soit baptisée aussi, qu'elle ait suivi le Seigneur. Et ensuite, il faut qu'elle soit quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui a de la maturité chrétienne. Et c'est l'Église qui vote pour le diacre ou les diacres. Donc c'est comme dans le Nouveau Testament, c'est pas juste les pasteurs ou le pasteur qui dit toi tu vas être diacre et c'est tout. Non, il y a un vote commun de l'assemblée. Les tâches des diacres aujourd'hui, sont justement de s'occuper des besoins matériels dans l'Église. Ça peut être la comptabilité, ça peut être le bricolage, les réparations, ça peut être aussi faire la cuisine, ça peut être aider les plus pauvres justement dans l'église, s'occuper de voir qui est vraiment en difficulté, et puis également, on peut aussi aider des missionnaires. Voilà, une église est appelée à soutenir des missionnaires, et donc ça peut être le rôle d'un diacre de choisir, d'étudier, de regarder quels missionnaires nous pouvons aider. Les églises du Nouveau Testament s'entraidaient beaucoup. Vous rappelez cette grande collecte que Paul avait organisée et où les Macédoniens avaient donné beaucoup alors qu'ils étaient pauvres, hein. Et cette grande collecte, c'était pour aider l'église de Jérusalem qui avait été frappée, hein, par une famine terrible. Et donc, les païens aidaient leurs frères juifs, de Jérusalem. C'était touchant. Il y avait encore cet amour pour les juifs à cette époque-là. Quelques dizaines d'années plus tard, il y a eu une grande faille, hein. Les juifs et les non-juifs ne pouvaient plus se voir, malheureusement. Ici, il est dit aussi, verset 12, ça continue, que le diacre doit être mari d'une seule femme et bien diriger ses enfants et sa propre maison. C'est exactement pareil que pour l'évêque. Il faut avoir un témoignage familial qui soit honorable et être un homme intègre avec son épouse. Verset 13, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Quand un diacre fait bien son travail, il acquiert un rang honorable, il acquiert une honorabilité, comme on dirait en français, c'est-à-dire c'est une grande responsabilité que de s'occuper des besoins matériels de l'Église, et s'il le fait bien, eh bien il a une récompense quelque part, c'est quelqu'un d'honorable, voilà, c'est quelqu'un de valable dans l'Église, c'est une colonne dans l'Église, c'est quelqu'un d'important parce qu'il soutient l'Église, il gère des choses importantes avec fidélité, humilité, et surtout il est au service des autres. Alors, au verset 11, il est question des femmes, les femmes d'eux-mêmes. Alors, il y a eu un débat, il y a un débat toujours. Est-ce que ce sont des diaconesses ou est-ce que ce sont les épouses des diacres? Personnellement, je vois mal pourquoi Paul parlerait des épouses des diacres. Il ne parle pas des épouses des évêques spécialement. les femmes d'eux-mêmes, bon, ben, d'eux-mêmes, c'est-à-dire comme les diacres juste avant, hein, au verset précédent. Il ne les appelle pas diacres ici, mais elles avaient ce même rôle, hein, de servantes des frères et sœurs dans l'Église, comme on en trouve dans le Nouveau Testament. Elles doivent être honnêtes, donc toujours l'honnêteté, parce qu'elles devaient gérer pas mal de choses. Non médisantes. Alors là, pour les femmes, il y a quelque chose de différent. Les hommes, c'est attention avec l'argent, hein, ne pas être avare ou ne pas essayer de voler l'argent. Et les femmes, attention à vos paroles, ne soyez pas des femmes qui médisent. Chaque fois qu'on a une responsabilité, on peut être tenté, qu'on soit pasteur ou diacre ou n'importe quoi, on peut être tenté d'utiliser sa responsabilité pour le bien ou pour le mal. Et donc la parole, la langue, est vraiment quelque chose qui peut être dangereux ou qui peut être merveilleux. On peut bénir, dit la Bible, ou maudire avec sa langue. Donc, les femmes, il dit, utilisez votre langue, hein, pour le bien, pas pour médire, dire du mal. Soyez sobres aussi, donc mesdames, donc sobriété avec l'alcool notamment, mais pas seulement, fidèles en toutes choses, et il faut que la fidélité ne soit pas seulement dans un domaine, mais dans tous les domaines. Je ne sais pas pour vous, mais ce sont quand même des qualifications élevées qui sont demandées. Voilà. Pourquoi Dieu est exigeant comme ça? C'est que c'est son Église, c'est son corps. Et ceux qui ont des responsabilités et qui servent dans le corps de Christ doivent être particulièrement fidèles, particulièrement irréprochables. Ce qui ruine le témoignage d'une église, c'est quand vous avez des responsables qui n'ont pas une vie fidèle, qui sont un mauvais témoignage. Quand vous entendez parler d'un pasteur qui a piqué dans la caisse ou qui est parti avec la pianiste, hein, ou la secrétaire, c'est toute l'Église qui empathie. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ces églises? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien sûr, dans l'Église catholique, hein, il y a énormément de scandales, mais le fait qu'on soit peu nombreux en France d'évangéliques, il suffit d'une Église, hein, qui a un problème ou d'un pasteur, et ça retombe sur tout le monde. Voilà. Et donc, nous devons être particulièrement fidèles, irréprochables, quand nous avons une responsabilité dans l'Église. J'aimerais dire qu'il n'y a pas juste les évêques et les diacres, mais que chaque chrétien peut avoir aussi un rôle à jouer. La Bible dit que nous avons reçu du Saint-Esprit des dons spirituels. Ces dons, ce n'est pas juste pour dire « j'ai des dons, je suis doué ». Ces dons, c'est pour faire quoi, dit la Bible? Édification, pour bâtir l'Église. Et donc, il n'y a pas que les évêques et les diacres qui ont des dons. Nous avons tous des dons spirituels pour édifier. Et là, on doit prendre ça très au sérieux également. Très au sérieux. Si mon don reste sur l'étagère parce que je n'ai pas une vie consacrée ou fidèle, c'est comme la parabole des talents, rappelez-vous. Hein, le maître confie des talents à plusieurs serviteurs et le troisième, il dit, moi, ce que je vais faire, je vais l'enterrer et quand il revient, je lui rends son talent, je lui rends sa pièce. Comme ça, au moins, je ne l'aurai pas perdu. Et ça, c'est la paresse, c'est-à-dire, plutôt que de faire fructifier ce que Dieu nous donne, on l'enterre et on dit, voilà, je te le rends. Mais Dieu ne nous donne pas des dons pour qu'on lui rende. Il n'a pas besoin, le Seigneur, des dons spirituels. Il est le Saint-Esprit. Et s'il nous fait des dons, c'est pour qu'on les utilise, qu'on les partage, qu'ils édifient l'Église. En tout cas, on peut aspirer à la charge, à servir l'Église, à être diacre. Et il dit, si on est un bon diacre, verset 13 donc, on s'acquiert un rang honorable. Et je pense qu'un certain nombre de pasteurs ont d'abord été diacres. Qu'il y a une fidélité que Dieu récompense. Un chrétien fidèle, l'Église va le voir. Et ça, c'est quelqu'un qui a un don, enfin, pardon, qui a un esprit de service. On va lui confier une responsabilité. Elle donc confie une petite responsabilité. Et on voit que cette personne fait très bien son travail, son petite responsabilité, il s'en occupe très bien. On dit, on va lui confier quelque chose d'un peu plus grand. Et puis, comme ça, ça peut arriver jusqu'à un jour, la personne soit appelée par le Seigneur et devienne pasteur. Hein. Ça arrive assez souvent. C'est rare qu'on devienne pasteur comme ça du jour au lendemain. Ah, ça y est, je suis appelé. Bon, bonjour, voilà, c'est moi le nouveau pasteur. Non, pasteur, c'est des années de vie chrétienne et d'apprentissage et de formation. Et s'il n'y a pas la fidélité, hein, il n'y a pas non plus le rang honorable au bout. Voilà, il parle d'un rang honorable. Hein. Si on n'est pas fidèle, si on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Alors, au sujet du sérieux dans l'Église, il y a quelque chose de particulier avec l'Église parce que nous sommes tous bénévoles, sauf un certain nombre qui sont salariés, mais la plupart sont bénévoles. Et encore, on est salarié, pas autant d'heures qu'on travaille, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de payer un vrai salaire. Et donc, le bénévolat, ceci de particulier, c'est qu'on se dit, après tout, je suis bénévole. Donc, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, que je sois là ou pas là, que j'aille jusqu'au bout de ma tâche ou pas, je suis bénévole. Et ça, c'est vraiment pernicieux, parce que quand on est en entreprise ou dans un travail, quand vous confiez votre patron vous dit « Bon, je veux que tu me rendes le rapport pour vendredi », on ne dit pas « Bon, ben, si je le rends, tant mieux, si je ne le rends pas ». On ne cherche pas une petite excuse au dernier moment. « Oh, désolé, j'étais un peu fatigué, je n'ai pas pu finir mon rapport. Le patron, il ne va pas vous accepter comme ça, hein, surtout de nos jours. » Et la chose, c'est que dans l'Église, le pasteur ne va pas vous dire « Ah ben non, ben, ce n'est pas possible, je te vire. » On ne va pas virer quelqu'un d'une Église parce qu'il n'a pas fait un travail. Et donc, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on est bénévole qu'on doit être moins fidèle. Au contraire, on est dans la maison de Dieu. Si il nous est confié un service, une responsabilité, on doit la prendre à cœur beaucoup plus que son propre travail dans l'entreprise. Vous me dites, mais j'ai pas de salaire. Si, il y aura une récompense. Et le Seigneur a promis de récompenser le travail de ses enfants. Il y aura une récompense. Paul conclut ici, il dit, si je tarde, verset 15, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, dans l'église du Dieu vivant. Et en fait, vous avez dans ce verset 15, 1 Timothée 3,15, le but de cette lettre. Si vous cherchez le verset clé, il est là. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est intéressant qu'ils disent la maison de Dieu. Le mot maison en grec a deux sens. Il y a maison ou famille. Voilà. C'est le même mot. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on parle d'une famille ou d'une maison, c'est la même chose. Nous, maison, on imagine le bâtiment. Mais en fait, une maison, c'est les gens qui habitent dedans. C'est ça, une maison, en réalité. Et c'est pareil pour l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les gens qui sont dedans. Et la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu, en fait. Nous sommes tous de la famille de Dieu, si nous avons le Saint-Esprit, si nous sommes nés de nouveau. Et donc, comment on doit se conduire dans la famille de Dieu ? Il y a des règles dans une famille, hein, normalement. Si les parents gèrent bien leurs enfants, il y a des règles, il y a une discipline, on doit respecter l'autre, on doit être ceci, on doit... Sinon, c'est le chaos, hein, c'est le désordre total dans la famille. Et c'est pareil dans l'Église, il doit y avoir des règles. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes égaux en tant que frères et sœurs, puisque nous sommes totalement égaux devant Dieu, qu'on doit faire n'importe quoi dans l'Église. Ça doit être le chaos, l'anarchie. « Ah, mais moi, je veux faire ça. Mais non, mais moi, je veux faire ça. » Non, il doit y avoir une façon de se conduire. Et c'est le but de cette lettre ici, de donner à Timothée un cadre, un plan, pour que lui-même enseigne à son Église à être discipliné et ordonné. Il doit y avoir un ordre. L'Église du Dieu vivant, j'aime ce titre aussi. Nous ne sommes pas l'Église du Dieu mort. Nous ne sommes pas l'Église morte. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et ça insiste, non pas sur l'Église, mais sur le Dieu vivant, cette phrase. Hein. Ce qui compte, ce n'est pas l'Église. Ce qui compte, c'est le Dieu vivant. C'est lui qui bâtit l'Église. C'est lui qui a fondé l'Église. C'est son corps. Voilà. Malheureusement, dans l'histoire, les hommes ont fait de l'Église quelque chose, hein, un but en soi, au-dessus de Dieu presque, hein, puisque l'Église romaine a plus d'autorité que la Bible elle-même. Dans le dogme catholique, hein, la tradition a plus, ou presque, a autant, mais en fait, dans la pratique, c'est plus d'autorité que la Bible. Voilà. Ça veut dire que l'Église a été mise au-dessus de la parole de Dieu, mais nous voulons être l'Église du Dieu vivant. Et puis il dit la colonne et l'appui de la vérité. Alors ça, c'est une drôle d'expression, l'idée d'une colonne et un appui. Un appui, c'est cette idée de soutènement, qui soutient. Voilà. Donc la colonne, elle soutient un bâtiment, et l'appui, c'est presque les fondations. Alors ça devait parler aux Éphésiens, parce que Timothée était à Éphèse, pasteur d'Éphèse, parce que les Éphésiens avaient le fameux temple de Diane. Et on dit qu'elle avait plus de 300 colonnes, que ce temple avait 300 colonnes. Vous savez comme sont les temples grecs? Alors les colonnes, ils en voyaient. Les Grecs, vous leur parliez des colonnes, ils connaissaient ça par cœur. Et là, il dit, bien, l'Église est la colonne de la vérité. Ça montre à quel point l'Église locale joue un rôle important dans le plan de Dieu. Parce que là, il s'agit d'une Église locale, on ne se conduit pas dans l'Église universelle. Ça a un rôle important parce que c'est une Église locale qui va garder la vérité et la porter bien haut, qui va la répandre. C'est ça l'idée. La colonne, c'est pour élever, pour montrer, et le soutien, l'appui, c'est pour garder, pour soutenir la vérité. Si vous n'aviez qu'une seule Église, si par exemple, il y avait l'Église de France, et qu'il y avait une seule autorité de l'Église de France, que nous soyons soumis à une autorité de l'Église de France. Imaginez que les autorités de l'Église de France s'égarent et commencent à enseigner une fausse doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les petites assemblées devraient suivre parce qu'il y a l'autorité qui, en haut, se trompe. C'est ce qui arrive dans ce qu'on appelle les dénominations. Il y a un livre que j'ai lu qui était très intéressant, Bataille pour la Bible, et qui raconte comment aux États-Unis il y a eu une bataille pour la foi en la Bible, et que ceux qui ne croyaient pas à l'aspiration plénière de la Bible ont gagné certaines batailles et ont entraîné des centaines d'églises dans l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dénominations avec un synode en haut, un conseil, et toutes les assemblées devaient rendre compte en haut, les pasteurs étaient nommés, toutes les grandes facultés avaient le même enseignement qui venait d'en haut, et donc le jour où en haut ils se sont trompés, ils ont commencé à dire « mais la Bible n'est pas totalement inspirée, il y a des choses, il ne faut pas le prendre à la lettre, les miracles des fois, c'est peut-être un peu des légendes, et puis la résurrection de Jésus, on n'est pas vraiment sûr ». C'est un fait historique ou pas, c'est peut-être spirituel. Donc ils ont commencé à diverger beaucoup de l'écriture. Et ils ont commencé à changer les confessions de foi. Et à faire des confessions de foi extrêmement vagues, vaseuses, nuageuses, nébuleuses. Et les églises ont dû appliquer cette nouvelle confession de foi. Et à chaque fois, il y a eu une petite division parce qu'il y a des gens qui disent « mais non, là on recule, là on s'éloigne de la Bible. » Les autres, mais oui, mais ça vient d'en haut. Et donc, ceux qui n'étaient pas contents, ils s'en allaient de la dénomination. Mais en fait, toute la dénomination était entraînée loin de la Bible et de la foi. Alors que quand vous êtes une église, justement, en dehors d'une dénomination officielle, d'une fédération d'églises, si vous vous égarez, vous êtes seul à vous égarer. Ou si l'église d'à côté s'égare, c'est leur responsabilité. Mais notre église locale veut suivre la Bible, voilà. Ça n'épargne pas les églises indépendantes de s'égarer ou d'avoir des divisions. Malheureusement, il y a des problèmes doctrinaux partout. Mais je crois que le Seigneur a voulu l'Église comme gardien de la vérité pour empêcher Satan de corrompre toute l'Église. Rappelez-vous la parabole de Jésus sur le levain. Qu'est-ce que Jésus a dit sur le levain? Il ferait lever toute la pâte. Et il parlait du royaume des cieux qui est en fait la chrétienté. Et donc, un peu de levain, un peu de faux enseignement. Le levain dans la Bible, surtout dans la bouche de Jésus, c'est un faux enseignement. Le faux enseignement, il rentre un petit peu et puis il fait tout lever et il corrompt toute la pâte. Pour empêcher ça, il y a l'Église, les Églises. Et c'est dans l'Église qu'on doit enseigner la vérité, défendre la vérité. Il y a des mouvements, des organisations ecclésiastiques, ou plutôt pas ecclésiastiques, mais des organisations religieuses, chrétiennes, qui ne sont pas des églises et qui utilisent des chrétiens de tous bords, de toute dénomination, de tout genre. Du moment qu'on dit que Jésus est le Messie, Jésus est le Christ, vous pouvez travailler avec eux. Ces organisations font un certain nombre d'actions qui peuvent être bénéfiques et utiles, mais elles ne gardent pas la vérité, ça c'est sûr. Parce qu'elles mélangent toutes sortes de doctrines, de convictions, elles mélangent des gens qui ne croient pas vraiment toute la Bible avec des gens qui croient toute la Bible, et elles ne font pas un bon travail de vérité. Il n'y a que l'église locale qui peut faire ça, qui est la colonne et l'appui. Pour terminer, quand on sert le Seigneur dans l'église, on doit avoir une qualification particulière. Et c'est le verset que j'ai négligé jusque-là. Et donc c'est le verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Il y a deux mystères là, le mystère de la foi et le mystère de la piété. Pour servir le Seigneur, il faut conserver le mystère de la foi. Alors, est-ce que c'est un mystère mystérieux, inconnu, dont il parle? Non. Justement, le mystère de la foi, il le dit ailleurs dans Colossiens, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, il faut avoir Christ en soi, et pas simplement l'avoir reçu comme son Seigneur, mais qu'il remplisse notre cœur pour être un bon serviteur. Et il faut que cette foi s'occupe du mystère de la piété. Et la piété, c'est une vie chrétienne fidèle. Hein. La piété, c'est l'amour pour Dieu, c'est le service pour Dieu. Donc, comment être quelqu'un de pieux qui peut devenir un diacre ou un évêque? Eh bien, il faut avoir le mystère de la piété. Et qui est ce mystère de la piété? Dieu a été manifesté en chair. De qui parle-t-il? Jésus. Il a été justifié par l'Esprit. Qui a été justifié par l'Esprit? Jésus, lors de son baptême notamment. Il a été vu des anges. Qui a été vu des anges? Jésus, et c'est des anges qui ont annoncé sa naissance notamment. C'est des anges qui étaient près de lui en permanence même. Il a été prêché aux nations. Qui a été prêché aux non-juifs, aux nations? C'est Jésus. Il a été cru dans le monde. Qui est cru dans le monde? Qui a des croyants dans le monde? C'est Jésus. Élevé dans la gloire, c'est Jésus. Pour servir le Seigneur dans l'Église, il faut aimer Jésus. Il faut avoir cette foi en lui. Il faut que Jésus-Christ soit le principal objet de notre foi, de notre piété. Le mystère de la piété, ce n'est pas d'aimer la Bible ou d'aimer la prière ou d'aimer. C'est premièrement d'aimer Jésus-Christ. Parce que quand on aime Jésus-Christ, on aime la Bible parce que c'est lui qui l'a inspiré. On aime la prière parce que la prière, c'est le moyen de communiquer avec Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui est le mystère de la piété. Ça doit être la qualification principale d'un évêque ou d'un diacre, quelqu'un qui aime et qui glorifie Jésus-Christ par-dessus tout. Ce n'est pas une question de compétences techniques ou de compétences professionnelles, c'est une question de piété, de mystère de la foi dans une conscience pure. Que le Seigneur nous aide encore une fois à pratiquer la parole de Dieu dans notre Église et à défendre la vérité de la foi telle qu'elle nous a été transmise une fois pour toutes. On va terminer par un refrain.